Seb, Pascal et Nathanaël. Je vous laisse accueillir notre dernier invité déjà pour ce vendredi soir.
Eh bien, nous accueillons, on va parler voilà, de potager des poissons.
Ah, j'adore le nom.
Bonsoir, Benoît.
Bonsoir.
J'adore l'appellation.
Alors, le potager des poissons, déjà, voilà, ça interpelle. Pareil pour le principe de l'aquaponie, on va pouvoir voir tout ça ensemble. Alors, du coup, qu'est-ce que le potager des poissons?
Le potager des poissons, donc, c'est une ferme aquaponique. Alors, c'est un peu abstrait quand on le dit comme ça, mais aquaponie, on retrouve facilement la particule aqua. Et l'autre particule ponaire, qui veut dire culture portée sur l'eau.
Ah,
et la deuxième définition, aqua toujours eau. Faire travailler, donc on a une exploitation qui fait travailler l'eau, qui travaille avec l'eau. C'est une donnée aujourd'hui très importante, on le sait tous.
Mm-hmm.
La richesse de l'eau est importante, la rareté de l'eau est une problématique.
Tout à fait.
Et du coup, nous, on veut travailler avec elle, on veut la préserver et on a une exploitation qui est autonome en eau.
D'accord, voilà, autonome.
On va un peu le détailler après.
Effectivement, oui, tout à fait. Je vois que vous avez eu cette idée et que vous l'avez créée en 2018 après un an de réflexion. Alors, les origines du projet, comment est-ce que c'est parti?
Ça a été une rencontre qu'on a faite. On a vu une personne qui faisait ça à toute petite échelle. Mm-hmm. Et on s'est dit qu'on pouvait faire une règle de 3 pour la multiplier sur une plus grande échelle. Donc, nous, on a monté une serre qui fait 2500 m².
D'accord.
On a 2000 m² sur la partie maraîchère, 500 m² réservés aux poissons dans lesquels on a mis les bassins.
Mm-hmm.
Et on a fait une règle de 3 qui a fonctionné.
Donc, ça, c'est un circuit d'eau. Vous êtes autonome.
On est en circuit d'eau totalement fermé. Donc, l'eau des poissons est la même que l'eau qui circule sous les végétaux.
D'accord.
Nos végétaux sont plantés sur des radeaux,
mm-hmm,
et nos poissons sont dans des bassins. Et entre les deux, entre les poissons et les végétaux, on a un élevage de bactéries qui va transformer la déjection des poissons
en nutriments
pour les végétaux. Et une fois que les nutriments sont présents, les végétaux viennent s'en nourrir, les retirent de l'eau et l'eau revient propre aux poissons.
Donc,
on est en circuit fermé total d'eau. Et on a très peu de perte d'eau.
Mmh.
On a une perte d'eau sur l'évaporation, sur l'absorption des végétaux.
Mmh.
Donc on vient de temps en temps compléter en eau.
Oui.
Mais on est en réserve d'eau parce qu'on collecte toutes nos eaux pluviales de la serre. On les stocke dans un bassin de rétention et on fait remonter cette eau de rétention dans nos bassins de culture.
Le bassin, c'est de l'eau pluviale.
D'eau pluviale principalement, 95% d'eau pluviale.
Ah oui, d'accord.
Et 5% en gros d'eau de la concession.
Mmh.
On prend pas trop d'eau de concession parce qu'il y a de la javel à l'intérieur.
Mmh.
Et comme on vit sur des milieux naturels avec des bactéries,
oui, c'est qu'il y a un équilibre.
La javel viendrait détruire les bactéries.
Et, oui, bien sûr.
Et si on détruit les bactéries, on détruit les poissons.
D'accord, alors du coup, voilà, on a vu des poissons, des végétaux. Est-ce qu'on peut voir ça un peu plus en détail au niveau de ce que vous...
Nos poissons sont des esturgeons.
Mm-hmm.
On a un élevage d'esturgeons, on a 2 tonnes d'esturgeons dans 3 bassins de poissons.
Oui.
On a une densité de poissons qui est très faible, c'est un choix de bien-être animal.
Mm-hmm.
On est sur du 20 kg de poissons au mètre cube.
D'accord.
Là, on pourrait monter à 70 kg, donc 3 à 4 fois plus important.
Ouais.
Mais on a fait un choix de faible densité pour la qualité de vie du poisson et pour éviter les maladies, pour éviter qu'il se frotte et qu'il s'abîme, qu'il se blesse. Et du coup, on ne fait pas d'entrée antibiotique, on ne fait pas de soins. Les poissons sont dans un milieu totalement naturel.
D'accord, vous êtes renseigné sur un petit peu l'espace dont ils avaient besoin pour bien évoluer. Vous leur avez donné cet espace dans la ferme.
On a optimisé l'espace pour qu'ils soient dans une bonne situation, pour travailler, pour qu'ils se développent correctement sans souffrance.
Et l'esturgeon, alors comment est-ce qu'il finit l'esturgeon?
Alors, l'esturgeon, c'est un poisson qui est rigolo parce qu'on le connaît tous sur un aspect, mais pas sur l'aspect qu'on pratique nous. L'esturgeon, pour tout le monde, ça résonne avec du caviar.
Tout à fait.
Nous, c'est pas du tout la production qu'on fait. Nous, on produit des filets d'esturgeon nature ou fumé.
D'accord.
Donc, on a un poisson qui est particulier et on fait un abattage à la ferme d'esturgeon. Et on a une particularité, c'est qu'on a travaillé, nous, sur de l'esturgeon mâle. Donc, on va travailler le déchet, entre guillemets, du pisciculteur de caviar, qui va très vite se débarrasser des mâles parce que ça ne produit pas d'œufs et de caviar. Du coup, nous, on commercialise du mâle de l'esturgeon mâle. Et la particularité qu'on a également, c'est qu'on fait un abattage en inkijime. C'est un abattage ancestral japonais et qu'on va pratiquer nous-mêmes dans un laboratoire. Et on va donc abattre le poisson en respect du vivant. C'est un abattage qui est très respectueux du vivant parce qu'on va préserver les chairs, on va préserver son développement, son abattage et on va le faire. Alors, je peux l'expliquer en détail si on a le temps.
Oui, bien sûr.
C'est un peu, voilà. On va le tuer cérébralement. Ensuite, on va lui mettre un fil dans la dorsale. On va lui empêcher de sécréter une toxine qui pourrait dégrader les chairs.
Mmh.
Ensuite, on va le saigner aux ouïes et à la queue. Mmh. On va le laisser, comme il est encore vivant, en mort cérébrale, donc il est encore vivant, on va le laisser vider de son sang.
Et
une fois qu'il s'est vidé de son sang, on va lui lever les filets.
D'accord, et ça c'est un procédé, on va dire...
japonais, ancestral
japonais.
Qu'on a décidé de faire pour être encore une fois dans ce qu'on a toujours choisi, d'être dans le plus respectueux de la nature, plus respectueux de l'animal. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et c'est pas... les pisciculteurs plus traditionnels travaillent sur de l'électrocution ou sur du glaçage.
Oui.
Et nous, on a fait un choix plus artisanal, plus long principalement, parce qu'il est plus long, ça nous demande beaucoup plus de temps. Mais c'est un choix plus respectueux.
Et si je peux apporter une précision, on a reçu sur le plateau depuis tout à l'heure des gens de plusieurs régions. On avait la Corrèze, on avait le Pays Basque, mais vous, Benoît,
Charente.
Un produit 100% charentais.
100% charentais. On est à 25 km d'Angoulême, à côté de la Rochefoucauld, et on est 100% charentais sur nos légumes aussi, parce qu'on les néglige, les oublie souvent. On produit des légumes de saison sur les légumes et sur les surgeons, 100% charentais.
Et le réseau...
Pardon.
Non. Mais et votre réseau de distribution, Benoît, alors ?
Nous, on fait tout qu'à nous. Alors, on a 5 ans d'exploitation et on a travaillé avec des restaurations collectives, on a travaillé avec des restaurants, on travaille avec les particuliers, on travaille avec des traiteurs, on travaille tout qu'à nous et grande distribution. On travaille tout qu'à nous. Il faut aujourd'hui qu'on se concentre. On a une exploitation ça va trop vite et il faut qu'on se concentre sur nos canaux de distribution pour rentrer plus de valeur dans l'exploitation. Mais ben, c'est à nous de jouer, quoi.
Donc les gens, les auditeurs là qui nous écoutent, ils peuvent très bien se déplacer. Donc c'est au Moulin de la Tardoire, c'est ça ?
C'est à Moulins-sur-Tardoire. Anciennement Rancogne. Et ils peuvent se déplacer chez nous, surtout nous appeler au 07 60 06 23 03 pour avoir des informations sur notre exploitation ou regarder sur Facebook le potager des poissons. Et on est un peu présent partout sur les réseaux sociaux. Et qu'ils n'hésitent pas à nous appeler, à nous questionner. Et on peut livrer sur Angoulême, on peut faire beaucoup de choses s'ils veulent mettre en valeur le poisson ou des légumes de saison.
Et pour les gens qui vont se déplacer sur le salon, ils vont venir à votre stand. Et on trouve quoi sur votre stand alors ?
On va trouver de l'esturgeon qu'on a fait nous en marinade et qu'on va leur servir à la plancha. Et après, ils peuvent aussi déguster de l'esturgeon fumé. Voilà, on a nos deux produits esturgeon aujourd'hui.
Et l'exploitation, elle est composée de combien de personnes ?
Deux, avec mon épouse, on a monté ça à deux. On a fait monter la serre et toutes les installations intérieures, nous les avons montées nous-mêmes, tous les bassins, toutes les rivières de culture, le laboratoire de battage, on a tout fait par nous-mêmes. On a fait choix de tout faire nous-mêmes. Parce que c'est pas un modèle qui existe. Pour se donner un peu une idée de l'aquaponie en France, au niveau national, c'est moins d'une dizaine d'exploitations. Donc pas beaucoup de recul sur le modèle d'exploitation. Donc on a vraiment préféré faire nous-mêmes pour connaître l'outil de travail et pour pouvoir le modifier en permanence, pour l'améliorer, pour l'optimiser et pour continuer de le faire évoluer. La journée, il y a une culture qui est sur radeau et demain, on voudrait passer en sable. Et ça, on va pouvoir le faire.
Pour la filtration, peut-être ?
Pour de la filtration, pour des végétaux différents, parce que sur radeau, on fait que du végétal hors sol. Et demain, dans le sable, on pourrait faire du végétal dans le sable, donc sous terre. Donc du radis, on pourrait faire de la patate douce, on pourrait faire du gingembre, on pourrait faire plein d'autres choses. Voilà. Et ça, on veut pouvoir avancer là-dessus. Et l'été, on est sur de la tomate traditionnelle, on est sur du concombre, on est sur de la courgette, on a les légumes de saison. Et c'est des légumes qui sont reconnus sur leur saveur et leur goût par le référentiel gastronomique Goemio. C'est très très intéressant.
Et sachant que c'est quand même quelque chose d'assez peu commun, ce que vous faites, vous avez très peu de... il y a quand même assez peu d'exploitations de ce type-là. On peut visiter l'exploitation ?
On peut visiter l'exploitation. On fait visiter l'exploitation tous les samedis à 15h.
D'accord.
Il faut s'inscrire au préalable sur notre site internet ou par téléphone. On s'inscrit et on fait une visite à 15h le samedi.
D'accord, donc je donne le site, c'est le potager des poissons, au pluriel, tout attaché, donc lepotagerdespoissons.fr. Vous trouverez effectivement pas mal d'infos et notamment les produits donc à venir retirer sur place. Vous avez dit que vous pouviez livrer également.
Sur Angoulême sans aucun problème.
Sur Angoulême, ouais.
Angoulême,
du moment que ça reste dans le 16 à peu près, c'est bon, ça va. C'est...
On s'organise.
C'est gérable. Ok, très bien. Les gastronomates, justement, un salon comme celui-ci, ça permet de rencontrer des clients en particulier, mais aussi des professionnels. Vous l'avez dit que vos produits pouvaient être. Utilisé par des professionnels que vous pouvez rencontrer sur place ?
Oui, complètement. On travaille plusieurs canaux de distribution, ce qu'on disait. Et les restaurateurs, c'est vraiment un secteur qui nous intéresse parce que c'est eux qui vont travailler le mieux les produits, qui vont savoir les cuisiner, les tester, les expérimenter. Donc c'est vraiment un canal de distribution qui est très intéressant. Et après, les particuliers, c'est aussi une clientèle intéressante parce que c'est un retour client qu'on a qui nous permet d'ajuster la qualité de nos produits, de travailler avec eux, de converser et d'échanger en permanence avec eux. Et la grande distribution, ça permet aussi d'écouler des volumes. Donc chaque canal a ses bons côtés, ses côtés plus difficiles à travailler, mais voilà, il faut savoir jongler avec tout ça. Et ça, c'est le rôle du gérant d'exploitation à mettre bien ça en musique.
Et depuis la création justement du potager des poissons, vous avez eu l'occasion d'aller représenter vos produits ailleurs qu'en Charente ?
On n'a pas représenté nos produits ailleurs qu'en Charente, c'est beaucoup de gens qui viennent nous voir. On reçoit beaucoup de monde, l'autre jour c'est assez particulier, mais c'est intéressant de le citer. On a reçu des parlementaires. Donc là, qui sont descendus de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission parlementaire sur la ressource en eau. C'est-à-dire qu'on est cité dans un rapport parlementaire sur la capacité à utiliser l'eau et à l'économiser. Donc ça, c'est très intéressant. Donc les députés, on a passé 2 heures ensemble. On leur a expliqué comment travailler avec l'eau et comment on pouvait, notre exploitation, dans les évolutions du climat telles que le prétend le GIEC, on peut adapter notre modèle dans cette évolution-là.
D'accord.
On l'adapte et on est cité, l'aquaponie est citée par la Commission européenne comme un modèle à développer pour les pisciculteurs, pour purifier l'eau rejetée par les piscicultures. Et un modèle qui est fléché pour le développement. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'on arrive à évoluer sur ça et à ramener d'autant plus de fermes aquaponiques en France.
Et donc là, ça permet effectivement de prendre le contact avec directement les élus qui, eux, sont sensibilisés sur ces problématiques.
Tout à fait. Tout à fait.
Et voilà, d'échanger avec eux. Ça, j'imagine que ça met une pression, mais des deux côtés, en fait.
C'est très important.
On cherche à faire au mieux dans les deux cas.
Correspondre avec les élus, les chambres consulaires, les chambres d'agriculture, les chambres CCI. Pour pousser ce modèle en avant, pour qu'il y ait de l'encouragement économique. Finalement, il faut créer une dynamique économique, que les partenaires bancaires, les assurances, tout le monde se mette en marche pour accompagner ce modèle qui a des vertus énormes. C'est-à-dire qu'on est sur quand même des produits 100% naturels.
Oui.
On n'a aucun entrant chimique, parce que si on mettait un entrant chimique dans le système, ça veut dire soit détruire les bactéries, soit détruire les poissons, soit détruire les végétaux. Donc il faut travailler. Dès qu'on rentre quelque chose dans le modèle, il faut le réfléchir, l'impact qu'il peut avoir sur l'un des autres modules. Donc ça, c'est très, très important. Et c'est ce qui donne la garantie d'un produit de très grande qualité et 100% naturel.
Et vous l'avez dit, vous êtes sous serre. J'imagine que justement, pour éviter peut-être les contaminations extérieures, il a fallu un petit peu isoler votre terrain.
Non, on veut des contaminations extérieures. On ne s'est pas exempt du milieu. On aurait pu se mettre dans une bulle, s'exempter du milieu, mais nous, on a fait le choix d'une serre dans son milieu, et même, on encourage le milieu.
D'accord.
Parce qu'on a planté des bocagères pour qu'il y ait l'insecte autour de nous. De l'insecte ravageur, qui va nous embêter, mais aussi de l'insecte auxiliaire. On va avoir les deux, et ça, c'est très important d'avoir cet équilibre-là. Et ça, il faut comprendre, c'est-à-dire que quand on a posé la serre, il a fallu que son environnement s'adapte à ça. Et il nous apporte les bons éléments. Donc pendant un temps, on a laissé des jachères autour de la serre. Et ça a interpellé beaucoup nos clients qui disaient « Mais pourquoi vous ne tournez pas votre gazon ?» Et nous, on disait « Mais non, parce qu'on veut qu'il y ait des insectes dans la serre, autour de la serre, pour qu'ils rentrent dans la serre. »
Oui, c'est qu'il fallait étudier déjà le vivant sur place, en fait.
Exactement.
On veut qu'il y ait
Il faut qu'il y ait ce tissu animal autour de la serre pour que ça puisse favoriser la croissance des végétaux dans la serre. Tout le monde se rend service. On n'est pas là pour opposer les uns les autres, on est là pour tous être ensemble, même dans la nature.
Oui, c'est vrai.
Et quand on a des maladies sur nos végétaux, qu'on a des ravageurs, on sait trouver dans la nature les éléments qui vont nous aider pour lutter. Donc on utilise des extraits fermentés de végétaux, on utilise des purins de végétaux, on utilise des décoctions, des macérations, des infusions. On les fait et on utilise comme végétaux la consoude, la prêle, la fougère forestière et le quatrième, la consoude. Voilà. On a quatre végétaux principaux pour lutter contre les ravageurs ou les maladies.
Et justement, moi, je me pose une question parce que forcément, nous, on sort d'un... Ça fait 20 ans, 25 ans, on sort d'un 20e siècle qui a révolutionné l'agriculture dans le sens où elle imposait d'autres méthodes de production au milieu du siècle. Et on sort de 50 ans d'agriculture, on va dire, qui a été conventionnelle. Comment est-ce qu'on retrouve des savoirs? Est-ce qu'on est obligé de tout découvrir des nouveaux savoirs ou est-ce qu'on peut retrouver ceux qui ont été un petit peu utilisés avant ce modèle-là?
Il faut regarder partout. Il y a des choses très bonnes dans le conventionnel. Moi, on n'a jamais opposé, nous, dans notre philosophie, on n'a jamais opposé le conventionnel, le bio et le différent.
Oui.
On a toujours mis en complémentarité. Il y a des très bonnes choses dans le conventionnel, il y a des très bonnes choses dans le bio, il y a des super bonnes choses chez nous. Voilà, il faut que chaque chose a son élément et on ne s'est jamais mis en opposition avec les autres parce qu'on a un modèle qu'on considère complémentaire aux autres et qu'on a à faire avec les autres. Après, pour se ressourcer sur tout ce qui est les extraits fermentés, les vieilles recettes de grand-mère, il faut apporter dans ces recettes les connaissances scientifiques qu'on peut mettre dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une recette de grand-mère, on est capable de l'analyser pour connaître ce qu'elle apporte. Ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que c'est plus du travail de sorcier. On va faire une décoction, par exemple, de tortille. On va être capable de l'analyser, savoir ce qu'elle va apporter au végétal. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va affiner cette recherche-là sur des végétaux naturels, sur de la nature. Et on va contribuer à une bonne évolution naturelle des choses et non pas aller en opposition à la nature. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et on va tous évoluer là-dedans parce qu'on a besoin. Et la révolution dans l'agriculture, on pourrait aller discuter avec la chambre d'agriculture là-dessus. La révolution, elle est permanente dans un milieu agricole. Elle est permanente. Et je ne connais pas d'autres métiers qui ont une dynamique révolutionnaire aussi importante aujourd'hui et qui a besoin de se ressourcer. Enfin, un métier qui a autant d'aléas climatique, sanitaire, économique, tout ce qu'on veut, concurrence internationale, on en parle sur les produits laitiers. C'est hallucinant d'avoir un métier qui est aussi influencé par des contraintes extérieures et non maîtrisable.
Voilà. Nathanaël, toi qui es plus attaché à la terre, je suppose que cette histoire de ressources naturelles et comment utiliser à bon escient ces ressources naturelles t'intéresse particulièrement.
Alors c'est une question du quotidien effectivement, mais c'est pas une question du quotidien que du monde agricole. Moi je pense que c'est une question quotidienne que nous devrions avoir tous dans nos têtes, que ce soit les particuliers, les agriculteurs et puis également tout corps de métier de profession et également nos pouvoirs publics. Vous parliez tout à l'heure de la discussion avec nos députés charentais, j'imagine René Pilato et puis peut-être d'autres de la circonscription qui sont effectivement attachés au sujet de l'eau. Effectivement, il est important sur des sujets comme ça d'allier la performance qu'on peut avoir nous sur nos terrains en tant qu'acteurs de nos productions en tant que telles, de sensibiliser nos pouvoirs publics parce que c'est eux qui vont prendre les solutions de demain. Et effectivement, sans vouloir faire de politique, c'est bien qu'un député se rende sur une exploitation quelle qu'elle soit, se renseigne de façon à porter un jugement et des fois peut-être même à le changer. C'est ce qui fait aussi la richesse du débat, parce que si tout le monde était d'accord, il n'y aurait pas de débat. Et effectivement, pour qu'on puisse avancer, il faut des avis contradictoires. Des avis contradictoires plutôt, j'ai envie de dire, constructifs, hein, parce que c'est important. Mais le regard que vous avez effectivement, vous en tant que tel, sur votre exploitation, il est extraordinaire et puis on ressent comme tous les auditeurs qu'on a, enfin comme tous les intervenants qu'on a eu, on ressent avant tout une passion. Merci. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire valoir notre faire valoir.
Tout à fait, exactement. Nous on travaille beaucoup sur la passion et c'est ce qui nous a motivés en premier, c'est les valeurs transmettées de notre exploitation, c'est réellement ce qui nous a motivés, ce qui nous motive encore aujourd'hui. Il faut pousser les murs, hein, pour avancer et ça c'est très important. Et après, quand vous parlez des députés, c'est tout ça qui fera avancer les choses, il faut aller très loin pour pousser les murs. Vous voyez, tout simplement, nous, je vous ai expliqué tout à l'heure, on est production 100% naturelle, on n'utilise aucun produit issu de l'agrochimie. Mais du coup, par contre, on n'est pas labellisé bio. Pourquoi ? C'est une chose toute simple, c'est parce qu'on n'est pas nos légumes n'ont pas les pieds dans la terre. C'est le seul critère auquel on ne répond pas. Mais aujourd'hui, les lois françaises oblige les cantines scolaires, oblige à manger du bio, là où nous on peut plus candidater dans les marchés publics.
Et oui, voilà. Et
c'est une limite du système.
Et puis c'est là où vous avez raison que c'est important justement de former nos députés, nos pouvoirs publics, bien parce sûr. Qu'eux, ils sont pas forcément au courant et au fait de cela, parce qu'ils peuvent pas être performants dans tous les domaines.
C'est à nous de faire évoluer absolument. Les choses, et d'accompagner ces évolutions-là. Et chaque produit a sa place sur le marché, chaque produit a sa place pour les clients et pour les consommateurs.
En effet, en effet. En tout cas, félicitations.
Merci
à vous
beaucoup,
et également gentil. À votre femme, parce que si j'ai bien compris, vous êtes.
Elle arrive.
Comme quoi elle tombe à pic. Elle tombe à pic pour les félicitations. Donc voilà, non, vraiment, félicitations à vous d'avoir monté ça à deux, à la main, à la sueur. Il y a 5 ans, vous pouvez être fier.
3 km de tuyaux déroulés, combien de kilomètres de câbles, de bassins, de montées, de vis vissées, je sais pas combien. Mais venez nous voir, venez nous rencontrer, appelez-nous, suivez-nous sur les réseaux, sur le site internet comme vous pouvez.
On rappelle le numéro de téléphone ?
07 60 06 23 03.
Redonnez-le une seconde fois.
07 60 06 23 03.
Et pour vous retrouver ici, c'est quel numéro de stand ?
Le stand numéro 14.
14, tout simplement, pour venir discuter justement de ce quotidien avec vous et surtout de cette création, parce que c'est un beau challenge.
Merci.
Et également, enfin, discuter et déguster aussi les sturgeons, cuits à la plancha ou fumés.
Ah oui,
que des toasts.
Ah bah si jamais vous nous tentez de cette manière. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut venir déguster alors à la plancha?
Alors on peut déguster donc de l'esturgeon donc abattu façon Ikejim, cuit à la plancha dans une marinade. Alors il y a deux marinades différentes, il y a une marinade que est gingembre, miel, sésame, sauce soja et une autre marinade où c'est cumin, raisin. Et après nous avons aussi une assiette où il y a de l'esturgeon fumé. Tout ça accompagné de toast de pesto de cresson avec du gingembre et des amandes.
Mais alors moi je me pose une question, si vous êtes tous les deux là, qui est au stand en train de préparer tout ça?
Bah, personne, surtout que juste avant, en fait, je faisais partie du jury du trophée des gastronomades. Donc j'ai eu la chance de déguster des superbes plats cuisinés avec passion par des jeunes apprentis avec beaucoup de talent.
C'est effectivement écoutez, bravo. La richesse des gastronomades. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'on est content de revenir d'année en année.
Exactement. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci,
bon salon à vous.
Merci.